Vous êtes sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL.
Avec Flavie Flamand.
Mousse au chocolat, flan, crème caramel, crème à la vanille. En moyenne, nous consommons 6 kg de crème dessert par an. Mais est-ce que ces desserts frais, lactés et végétaux ont des qualités nutritionnelles satisfaisantes? C'est l'enquête de la semaine avec Laura Hendricks, journaliste à 60 millions de consommateurs. Vivre au milieu d'orangers et de citronniers dans un esprit jardin du Sud vous fait rêver, mais vous n'habitez pas sur le bassin méditerranéen. Alors peut-on cultiver les agrumes en pot dans son salon et en plein hiver? C'est la question de la semaine que nous poserons à notre jardinier Pierre Nesman. Et puis côté cuisine, les fruits secs consommés en petite quantité chaque jour sont bénéfiques pour notre système immunitaire. Amandes, noix de cajou ou encore ananas séchés, quels sont les encas sains et bons pour la santé à déguster pour combler les petits creux au cours de la journée et quelles sont les recettes? Réponse avec Angèle Ferremact. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je ne boude pas mon plaisir de vous retrouver tous les samedis matins avec Nous Voilà Bien. C'est votre magazine Conso qui n'a pour mission que de vous éclairer à mieux consommer. Laura Hendricks, bonjour.
Bonjour Flavie.
Merci d'être avec nous en ce samedi matin. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs actuellement en kiosque. Alors avec vous, on va s'intéresser justement à ces desserts que nous consommons. 6 kilos de crème dessert par an et par personne. C'est quand même plutôt pas mal. Santé publique France recommande de manger 2 produits laitiers par jour. Les crèmes desserts, justement, ce qu'on appelle les desserts lactés, est-ce que ce sont des produits laitiers?
Eh bien non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en général, ils contiennent trop peu de lait et sont très sucrés.
Ouais.
Donc on a d'un côté les produits laitiers, qui sont les fromages, le lait, les yaourts, le fromage blanc. Et de l'autre, les desserts lactés, à savoir les crèmes desserts, les flans, les mousses au chocolat, etc.
En fait, il existe une multitude de choix au rayon des desserts lactés des supermarchés. Ouais. Est-ce qu'il faut être vigilant à la composition de ces produits ou est-ce que tous les produits se ressemblent?
Il faut être très vigilant. On a relevé de grands écarts entre les produits. Certaines compositions sont proches des recettes traditionnelles, avec peu d'ingrédients, des œufs, de la crème, du sucre. Et d'autres n'ont plus rien à voir avec la recette d'origine. Par
D'accord.
exemple, la moitié des mousses au chocolat qu'on a étudiées ne contiennent pas d'œufs, alors que bon, c'est quand même un ingrédient clé de la recette classique.
Alors, je me tourne vers Angèle Ferremac. Bonjour Angèle.
Bonjour, je suis outrée. Mais qu'est-ce qu'ils contiennent alors?
Vous deviez intervenir un petit peu plus tard, mais je vais quand même vous donner la parole. Donc, il n'y a pas d'œufs. On est bien d'accord que quand on fait une mousse au chocolat, Angèle...
Ah, mais moi, je mets que 2 ingrédients, mes blancs d'œufs que je monte en neige et du chocolat fondu, c'est tout, basta. Alors, je comprends pas comment ils s'en sortent sans œufs.
Eh ben, vous n'avez pas fini d'être en PLS, justement, en écoutant l'étude de 60 millions de consommateurs. Est-ce que les mousses au chocolat crème vanille ou au caramel vendues comme artisanales sont de meilleure qualité quand même que les autres, Laura?
Oui, elles sont de meilleure qualité, elles contiennent moins d'ingrédients et peu, voire pas du tout d'additifs qui pourraient avoir des effets néfastes sur la santé.
D'accord.
En revanche, elles sont plus caloriques parce qu'elles contiennent des œufs, de la crème. Donc il vaut mieux choisir celles qui proposent des petites portions.
D'accord.
Et attention aux apparences parce que certaines marques renvoient une image artisanale qui est en fait très éloignée de la réalité.
Ouais.
Pour vous donner un exemple, la mousse au chocolat à la laitière contient 12 ingrédients, dont 2 texturants et 2 émulsifiants, le tout sans œufs. Donc on est très loin de la recette traditionnelle.
On se tournera tout à l'heure vers Angèle Ferremac. Vous nous donnerez une petite recette, si vous le voulez bien, juste après, quand même,
bien
pour
sûr.
Ceux qui nous écoutent. Laura, parmi les ingrédients à rallonge, on trouve donc des émulsifiants, de l'amidon modifié, de la gomme de goire, de la farine de graines de caroube, des correcteurs d'acidité. À quoi ça sert tous ces additifs?
Ces additifs ont plusieurs fonctions. Dans les desserts frais, on trouve beaucoup de gélifiants et d'épaississants. Ils donnent aux produits une texture plus onctueuse et permettent de stabiliser les mousses dans le temps. On peut citer la gomme de goire, la gomme tara, la gomme xanthane ou l'agar agar. Le problème, c'est que quand ils sont consommés en excès, ces ingrédients texturants peuvent générer un inconfort intestinal.
Ok. Je vais me tourner vers Angèle Ferremac, pardon, ouais. qui est naturopathe.
Oui, en plus, ils viennent souvent de loin et ils peuvent avoir un impact négatif sur la glycémie, comme la gomme de goire qui peut faire monter la glycémie. Donc en fait, ils ont des effets un peu pervers comme ça.
D'accord, donc méfiance. Il y a aussi d'autres additifs qui servent à améliorer le goût, c'est ça?
Ce sont les correcteurs d'acidité, par exemple. Là, on parle notamment du citrate de calcium et de l'acide citrique, qu'on retrouve surtout dans les desserts végétaux. Quand ils sont consommés à des doses élevées, ces additifs peuvent abîmer les dents.
Est-ce qu'il y a un ingrédient particulièrement néfaste ou potentiellement cancérigène qu'il faut bien identifier sur les étiquettes de composition ?
Oui, ce sont les mono- et diglycérides d'acide gras, plus précisément E471 et E472. Ils sont utilisés comme émulsifiants et suspectés de favoriser les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.
D'accord.
Et si vous avez des problèmes rénaux, évitez aussi les desserts qui contiennent du phosphate de calcium.
Les produits qui sont vendus, genre sans colorant, sans conservateur, sans gluten, c'est vrai tout ça ? Ils sont à privilégier ?
Non, pas du tout. Écrire sans conservateur sur une mousse au chocolat, par exemple, ça n'a pas de sens. Parce qu'aucune des mousses au chocolat qu'on a étudiées ne contient de conservateur.
D'accord.
Pareil pour les colorants. Certaines mousses affichent qu'elles sont sans colorant, mais aucune des recettes de mousse au chocolat de notre échantillon n'en contient. On a aussi vu un dessert végétal se disant sans gluten, alors que là encore, aucun produit, qu'il soit végétal ou lacté d'ailleurs, ne contient du gluten. Donc non seulement ce n'est pas la peine de privilégier ces produits, mais en plus, c'est une pratique d'étiquetage qui n'est pas loyale selon le règlement INCO sur l'étiquetage des denrées alimentaires.
Pour les crèmes vanille, caramel et mousse au chocolat que vous avez étudiées, quels sont les produits pour chaque catégorie à conseiller à nos auditeurs ? Et puis le mauvais élève des classements aussi, tant qu'à faire, on va distribuer quelques petites fessées.
Pour les crèmes vanille, la mieux classée de notre test, c'est celle de la marque Invitation à la ferme. Mmh. Alors attention, ça reste une recette industrielle, sans œufs et avec des additifs. Mais c'est l'une des meilleures de sa catégorie, avec celle de Sacré Willy.
Sacré Willy, ça, c'est un nom
c'est
de titre comme ça. D'accord. Ok.
La dernière du classement, c'est la taille fine. Elle contient le plus grand nombre d'additifs et deux édulcorants.
Ah bah dis donc, j'aurais pas pensé. Et du côté des crèmes caramel, vous avez quelque chose ?
Oui, alors on peut recommander la recette traditionnelle cuite au four de Bonne Maman, qui contient seulement du lait, de la crème, du caramel, des œufs et du sucre. Et celle qu'on déconseille, eh bien, c'est le fameux flambi de Nestlé qui contient 13 ingrédients, dont 5 additifs, ce qui est un record pour sa catégorie.
Ouais, bah, le flambi, il n'y a que ça de rigolo, c'est quand on l'enlève du pot, quoi. Hein. C'est juste pour blaguer comme quand on était enfant, mais sinon, ça n'a pas. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça n'a pas un intérêt fulgurant et qu'on peut le faire soi-même. Les mousses au chocolat, pour terminer
Ben là, c'est encore Bonne Maman qui gagne avec une composition irréprochable des œufs, de la crème, du chocolat, du sucre et des blancs d'œufs. Rien à voir avec les mousses des marques Délice, Taïfine ou La Laitière de Nestlé, qui contiennent pas moins de 12 ou 13 ingrédients, sans œufs et avec des additifs.
Et alors on se demande tous, et la Danette ? Alors, eh bien vous allez nous répondre dans un instant, justement, Laura Hendricks. On va se retrouver avec Pierre Nesman. On vous entend pas, Pierre, mais on vous salue.
Hein,
voilà, ça vous intéresse tout ce dossier quand même.
Oui, hein, je me régale.
On apprend plein de choses, vous régalez.
Hein. Régale.
Et puis Angèle Furemac, bah tiens, je vous laisse, c'était pas prévu, mais nous trouver une petite recette alternative à tous ces desserts lactés, ce sera dans un instant pour la suite de Nous Voilà Bien.
Nous Voilà Bien.
Pierre Nesman, vous êtes avec nous dans ce studio, vous vous régalez.
Je me régale, effectivement. Bonjour,
bon,
Flavie.
Avant de nous parler, justement, des citronniers, des orangers, Angèle Furemac, c'était pas prévu, mais vous allez nous trouver une petite recette alternative. Hein. Et puis, vous, Laura Hendricks, évidemment, on se retrouve dans un instant pour parler de l'étude donc, de 60 millions de consommateurs. À tout de suite dans Nous Voilà Bien.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
Peut-on cultiver des orangers et des citronniers à la maison, à l'intérieur ? Pierre Nesman, vous allez nous répondre dans un instant. On va parler des petits encas bons pour la santé avec vous, Angèle Furemac. Non, je sais pas pourquoi quand je vous vois, puis on s'est pas vu depuis longtemps.
Ça fait rire ou bah, j'ai une drôle de tronche ?
Ça fait plaisir, ça fait plaisir de vous voir. Et Laura Hendricks, vous êtes avec nous pour parler des desserts lactés. Bon, on a appris plein de choses quand même hein, dans cette première partie de Nous Voilà Bien, Laura, qu'il faut se méfier, bien regarder les étiquettes. Et c'est un peu le grand classique. Hein, moins il y a d'ingrédients, mieux on se porte, évidemment. Vous venez de distribuer les bons et les mauvais points des desserts lactés que l'on retrouve dans 60 millions de consommateurs qui a mené l'enquête. Et alors, est-ce qu'on se lève tous pour la Danette ?
Alors, la Danette, elle est 7e de notre classement sur les crèmes vanille et 6e sur les crèmes caramel. On a à chaque fois 12 produits, donc elle se situe à un niveau intermédiaire. Sa composition n'est pas très vertueuse. Elle contient 3 additifs, de l'amidon transformé, des carragénanes et du phosphate dipotassique.
D'accord, c'est pas terrible.
Non, et dans sa version caramel, on peut aussi lui reprocher de contenir seulement 5,6% de caramel, alors que d'autres crèmes en ont plus de 10%.
Dites-moi, la plupart de ces desserts lactés, ils sont aussi un peu trop sucrés. Est-ce que nos fesses leur disent merci ?
La consommation de ces desserts lactés doit rester occasionnelle. Ouais. Ce sont des aliments à limiter, il ne faut pas en manger tous les jours.
Les desserts frais à base de lait végétal, ils sont plus vertueux en termes de composition ? Ils sont moins sucrés ?
Oui, sur le plan nutritionnel, les desserts végétaux s'en sortent globalement mieux que ceux à base de lait. Ils sont moins caloriques parce que le lait est plus riche en protéines et matières grasses qu'un jus de soja, d'avoine ou de coco, ouais, qui contient essentiellement de l'eau. Et en moyenne, les desserts végétaux qu'on a étudiés sont moins sucrés que les mousses au chocolat, les crèmes vanille et les crèmes caramel. Et ils contiennent aussi moins d'acides gras saturés, dont il faut limiter la consommation.
Ok, au niveau de la composition ?
Les desserts végétaux contiennent, comme les desserts lactés, des additifs qui servent à améliorer la texture du produit. En revanche, c'est la seule catégorie qui utilise des acidifiants et des correcteurs d'acidité pour donner plus de goût. Donc, d'accord, c'est pas terrible quand même.
Et dites-moi, pourquoi il y a certains desserts végétaux, soi-disant à base de lait de coco, qui contiennent principalement du lait de soja ?
L'avantage du soja, c'est qu'il est plus riche en protéines que le lait de coco. Mais de manière générale, le problème de ces jus et laits végétaux, c'est qu'ils contiennent très peu de soja, d'avoine ou de crème de coco. D'accord. En fait, la plupart du temps, c'est surtout de l'eau.
Parmi les desserts étudiés, quels sont les bons et les mauvais élèves ?
Les desserts soja-chocolat de Carrefour Bio et Monoprix arrivent ex aequo en tête du classement. Ça n'a rien d'étonnant, ils possèdent exactement la même composition. On en a déduit que ces produits étaient fabriqués par la même entreprise avec la même recette.
Bon, et le bonnet d'âne, c'est pour qui ?
Le plus mal noté, c'est le dessert vanille soja végétal ferment de yaourt d'Alpro. Il contient un total de 17 ingrédients, wow, c'est le record de notre étude.
Dites donc, merci pour toutes ces infos Laura Hendricks. Alors je ne sais pas combien d'ingrédients vous avez dans la recette que vous allez nous proposer en alternative, Angèle Firmac.
Une recette avec 4 ingrédients.
Ah génial, alors très on y simple. Va pour nos auditeurs.
Alors on va mélanger dans un saladier 50 centilitres de crème légère, on le mélange avec une cuillère à soupe de sucre, une gousse de vanille fraîche, on va récupérer les grains, on mélange bien tout ça, et avec 2 jaunes d'œufs. On les met dans des petits ramequins et on les met au four ou à la vapeur à 100-140 degrés pendant 45 minutes, une bonne heure même.
Et alors c'est quoi, c'est une crème aux œufs ?
Bah oui, c'est une sorte de crème, de crème dessert, quoi, de crème lactée. Alors si on veut, on peut même rajouter un peu de sucre dessus et le faire un peu...
En crème brûlée ?
En crème brûlée si on veut, mais en fait c'est, on peut vraiment l'aromatiser comme on veut et on a un vrai dessert lacté, très simple en fait.
Voilà, Laura Hendricks, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je rappelle que 60 millions de consommateurs est toujours en kiosque.
Merci.
Tu as volé, volé, l'orange.
C'est vous, Pierre Nesman, je le sais. C'est vous qui avez volé l'orange. Soyez le bienvenu Pierre Nesman, vous êtes paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique, vous êtes également rédacteur en chef de l'émission Mission Végétale diffusée sur M6 et le dernier Rustica Pratique vient de sortir en kiosque avec un dossier sur les desserts au citron décidément, ben aujourd'hui voilà. On a le bec sucré je dirais, et un dossier sur la permaculture également. Alors dites-moi, si je sème un pépin d'orange ou un pépin de citron acheté en bas de chez moi, est-ce que je peux espérer un jour avoir un agrume dans mon salon ?
Eh bien vous aurez un arbuste, un agrume, mais vous n'aurez pas de fruits ou des fruits de très mauvaise qualité.
Oh, bah c'est
et
pas
surtout,
ce que je veux.
Ben voilà, et surtout des rameaux épineux. Pourquoi ? Parce que ce sera un agrume sauvage. Parce que les fruits que vous achetez, les citrons, les oranges que vous achetez dans le commerce, eh bien, ils sont issus d'arbres greffés. Et c'est comme ça qu'on peut multiplier les agrumes et être sûr des fruits que l'on va avoir à consommer.
Mais il faut que je fasse quoi alors ? Que j'aille chercher un arbre chez mon pépiniériste ?
Exactement. Effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller chez un pépiniériste. Il va vous vendre un arbre qui aura été greffé. Et là, vous pourrez acheter la variété que vous souhaitez avoir. Alors, ça peut être un citronnier, un oranger, une mandarine, une clémentine, peu importe. Mais effectivement, vous serez sûr d'avoir des fruits de bonne qualité qui seront consommables.
Ah voilà, c'est ça. C'est pas juste des fruits pour faire joli, je peux les manger.
Non, vous pourrez les manger.
En pot, ça monte haut ?
Alors, c'est des arbres qui vont monter à 1m50, 1m50, 1m80, quand ce sont dans des grands, grands bacs. Ils ont un feuillage très, très élégant, persistant, vert foncé. Ils ont des fleurs qui se développent à partir du mois de mars jusqu'au mois d'avril.
Elles sont odorantes ?
Et elles sont parfaitement odorantes. Mais oui, que ce ce soit du citronnier, que ce soit de l'oranger. Et c'est ça, l'intérêt des agrumes, c'est que le parfum est extraordinaire et ça fleurit très longtemps, du mois de mars jusqu'au mois de juillet, et les fruits apparaissent après.
Au niveau des racines, est-ce que ça n'est pas à un moment donné problématique? Parce que quand il faut rempoter un arbre d'un mètre cinquante...
Alors voilà, effectivement, au début, quand on l'achète chez un fleuriste ou dans une pépinière, c'est un arbre qui est assez petit. Il va avoir un pot de 30-40 cm. On va le garder pendant 4-5 ans dans ce pot-là. Il résiste. Ils aiment bien, en fait, avoir les racines à l'étroit. Et c'est ce qui les incite justement à fleurir et à fructifier un peu plus. Et puis au bout de 4 ou 5 ans, on va les rempoter dans un pot un peu plus grand, 4-5 cm de plus. Mais vous avez raison, Flavie, au bout d'un moment, la pièce n'est pas extensible, la terrasse, le jardin n'est pas extensible. Et donc, on va arrêter de les rempoter. Et ils supportent très, très bien d'être pendant plusieurs dizaines d'années dans le même pot. Il faut juste enlever un petit peu de terreau usagé, remplacer par du terreau neuf et surtout leur apporter de l'engrais et de l'eau, évidemment.
Vous restez avec nous, on vous kidnappe, on vous séquestre parce qu'on a plein de questions à vous poser. A tout de suite pour la suite de Nous Voilà Bien.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
C'est la suite de Nous Voilà Bien et Angèle Firmac, elle est venue avec plein de conseils et des recettes et vous avez apporté des énergies balls, voilà, parce que vous allez nous permettre de parler justement des petits encas et nous donner des recettes, les petits encas pour nous requinquer, et on en a parfois besoin. Mais pour l'heure, on parle de citron, en tout cas d'agrumes, avec notre ami Pierre Nesman. Pierre, j'ai toujours rêvé d'avoir un citronnier, un mandarinier chez moi. Mais j'en ai toujours rêvé, sauf que je n'ai jamais osé, parce que pour moi, effectivement, c'est réservé au sud, c'est réservé au jardin, et ça n'est pas réservé aux citadins, aux parisiens, ou aux régions plus au nord. C'est possible en pot, mais est-ce qu'on peut tout avoir? Je m'explique. Est-ce que je peux avoir, par exemple, du citron caviar, du citron bergamote, enfin tous les agrumes dont j'ai envie?
Absolument. On va déjà les cultiver en pot, justement, pour qu'on puisse les rentrer en hiver, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est un arbre qui est extrêmement délicat et qui résiste mal au gel et au froid. Dès qu'il fait 0, moins 2, moins 3 degrés, il va souffrir du froid, donc il faut pouvoir le rentrer. Pour pouvoir le rentrer, on va le cultiver en pot. Et là, en pot, effectivement, vous pouvez mettre la variété que vous souhaitez. Toutes les variétés que vous avez citées tout à l'heure, il y a deux variétés un peu particulières, le kumquat et le calamondin, que l'on va cultiver en pot et qu'on va garder plutôt à l'intérieur. Mais tous les autres, vous allez les garder à l'intérieur pendant l'hiver, c'est ce qu'on appelle l'hivernage, à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai. Et du mois de mai jusqu'au mois de septembre, eh bien on peut le mettre sur un balcon, dans une cour, une terrasse, sur un rebord de fenêtre. Ils aiment être à la lumière, au soleil et à la chaleur.
Plein soleil ?
Oui, au début, mais il faut pouvoir les arroser. Alors je dis au début, c'est au début quand on les cultive pour les premières années, évidemment, ils ont besoin de lumière, mais c'est aussi des plantes qui vont pouvoir s'acclimater à des situations un peu ombragées. Là, dans ce cas-là, ils fleuriront peut-être un peu moins, et surtout, la maturité des fruits sera beaucoup plus difficile à obtenir.
Et quand je les mets en intérieur l'hiver, je les mets près d'une source de chaleur ou pas du tout?
Alors, pas trop près d'une source de chaleur, parce que ce sont des plantes qui ont besoin de 5 à 10 degrés en hiver, et donc il ne faut pas les mettre à côté d'un radiateur, dans une pièce chaude. On va les mettre dans un hall, dans une entrée, un palier par exemple, ou si vous avez un garage ou une pièce un peu lumineuse, ils vont très très bien supporter ces conditions-là. Il faut qu'il y ait de la lumière et qu'ils soient un petit peu au frais. On va les arroser.
À quelle fréquence?
Alors, toutes les semaines, parce que on l'a vu tout à l'heure, c'est un arbuste qui a un feuillage persistant, donc il a besoin d'avoir de l'eau pour s'alimenter régulièrement. Donc, en été comme en hiver, même si on a l'impression qu'en hiver il est un peu au repos, on va lui donner de l'eau une fois par semaine, et on va aussi lui donner à manger. Il a faim, parce que c'est un arbre qui va produire énormément de fruits, les citrons, les orangers, c'est très gourmand.
Ouais, donner des energy balls.
On va lui donner, exactement, pourquoi pas, et on va lui donner un engrais à partir du mois de février jusqu'au mois de septembre, à raison d'une application tous les deux mois à peu près.
Je vais vous poser une question qui va vous paraître idiote, mais je ne sais pas arroser une plante. Je ne sais jamais quand une plante est réellement arrosée. Est-ce que je donne assez? Est-ce que je ne donne pas assez?
Je vais vous donner un truc, Flavie, oui. Ça se fait au doigt et à l'œil. À l'œil, c'est quoi? C'est regarder la surface de votre substrat, de votre plante. Mmh. Si ça vous paraît sec, il va falloir arroser. Et le doigt, c'est ce qui va confirmer le fait que c'est peut-être sec. Donc vous allez toucher le terreau. Si c'est sec, effectivement, au toucher, il va falloir arroser. Si en revanche, vous sentez que c'est un peu humide, eh bien vous repoussez de quelques jours votre arrosage.
Si c'est sec en surface, j'ai pas à rentrer le doigt, quoi.
Alors quand vous pouvez en rentrer le doigt, effectivement, de quelques centimètres, vous allez voir si en profondeur, parce que souvent, oui, en surface, c'est sec, et en profondeur, c'est encore humide.
Donc voilà.
Voilà.
Dites-moi, non, mais est-ce qu'ils peuvent peuvent être attaqués par des parasites.
Oui, oui, effectivement. Alors, il y a la teigne du citron, la teigne du citronnier, qui est une petite mineuse qui va alors malheureusement manger, pondre sur les fleurs, qui va détériorer les fleurs. Et du coup, c'est souvent la raison pour laquelle on se rend compte qu'il n'y a pas de fruits. On se dit, mince, il a fleuri et puis il ne se passe rien, parce qu'effectivement, les fleurs ont été mangées. Et alors, surtout, quand on l'hiverne à l'intérieur, dans un appartement ou dans une véranda, eh bien, il y a beaucoup de cochenilles, des pucerons, des cochenilles farineuses, des cochenilles boucliers, qui vont sécréter des petites substances mielleuses sur les feuilles. C'est à ça qu'on les reconnaît. Et là, il faut traiter avec de l'huile de colza, avec du savon noir, des produits naturels.
Qu'on pulvérise.
On pulvérise dessus, mais il faut intervenir et surtout pas se laisser envahir. Et c'est souvent à l'intérieur, quand il fait chaud et sec, quand on l'hiverne en hiver, eh bien, qu'on se retrouve confronté à ces parasites.
Qu'il faut se méfier. Alors moi, j'ai la passion des agrumes. Vous ne le saviez peut-être pas, mais on a fait une émission autour des agrumes avec Sonia Esguillon, qui était absolument fabuleuse. Et j'invite tous nos auditeurs à retrouver tout cela sur les replays de Nous voilà bien. Parce que c'est bientôt le retour de la bergamote.
Oui.
Qui pour moi est l'un des meilleurs citrons du monde. Hein, voilà, j'adore la bergamote. C'est au mois de février, c'est ça?
Elle va arriver là, oui, effectivement.
Oh, je suis tellement contente, comme dirait Céline. C'est pour bientôt. c'est pour bientôt, parce qu'il y a la fête du citron à Menton du 12
Exactement.
Au 27 février.
Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un grand événement et en fait, c'est assez extraordinaire de se retrouver là-bas dans cette ambiance. Et vous avez des décors qui sont faits à partir d'agrumes, de citrons et d'oranges, qui des décors absolument magistraux. C'est assez spectaculaire. Et puis, il y a toute la gastronomie qui va avec, hein, les confitures, enfin tout ce qui marche autour du citron. C'est assez dépaysant et c'est assez extraordinaire effectivement de s'y rendre.
Il faut absolument cuisiner le citron, on est d'accord Angèle?
Absolument, et puis
il y a tellement de choses à faire.
On peut aussi le garder dans les bocaux avec du sel, faire du citron confit, c'est tellement bon toute l'année après dans les tagines, les salades, les sauces, etc. C'est très facile et c'est tellement bon.
Vous restez avec nous, Pierre Nesman.
Mais oui, parce que je me régale, comme je vous disais. Non,
je sais bien, parce que vous êtes en train de lorgner les les Energy Balls de Angèle Ferremec sous vos applaudissements.
Une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée? On y voit
Jean-Luc René est avec nous, mais c'est surtout Angèle Ferremac qui va nous parler justement de tous ces petits encas, tous ces fruits secs à coque, déshydratés, toutes ces graines qui font du bien. Voilà, quand on a préparé l'émission, je disais à Julien, qui est notre producteur, je voudrais qu'on parle des graines. Alors je ne sais pas si c'était juste, mais c'était ça en fait, Angèle. Il peut y avoir dans notre alimentation des tout petits trucs comme ça, de rien du tout, qui nous donnent une pêche d'enfer.
Exactement, qui vont vraiment nous apporter un petit coup de boost et qui contiennent plein de bonnes choses. Et évidemment, il faudra faire attention à la façon dont on les achète. Mm-hmm. On n'achète pas n'importe quoi, mais ça peut vraiment être un plus et ça se met partout. C'est délicieux, ça apporte du goût, du croquant, de la
couleur.
Et
c'est bon pour la santé tout ça, non?
Bah oui, c'est super bon pour la santé. Déjà, elles sont très riches en phytostérol. Alors, c'est un antioxydant qui aide à lutter contre le cholestérol, mais elles contiennent aussi souvent des protéines végétales. Elles sont riches en fibres, donc pour le transit, c'est intéressant. Et tout ce qui est mucilage, donc les graines de lin, les graines de chia et tout ça, c'est particulièrement riche en fibres, et donc pour les constipés par exemple, ça peut être vraiment intéressant.
D'accord, donc ça nous permet de lutter contre la constipation, ça nous permet aussi donc d'avoir la pêche, de l'énergie.
La pêche, parce que surtout plein de vitamines aussi, notamment du groupe B et du groupe E, les vitamines pour la peau,
pour avoir
les antioxydants, pour être belle, même si on n'a pas besoin de graines, hein, c'est à l'intérieur que ça se passe dans
n'est-ce
la tête.
Pas, Pierre Nesman, n'est-ce pas?
Mais oui, elles contiennent plein de bonnes choses.
Avec ces deux filles dans ce studio. Bon, alors, tout ça, c'est bon pour la santé. Et surtout, ces fameuses petites graines, avant qu'on en revienne aux fruits secs et compagnie, ces fameuses petites graines, on peut les mettre partout. Moi, je les mets sur ma salade, je les mets dans mes céréales, je les mets sur mes yaourts, partout. Bah, quoi.
Exactement. En fait, on peut vraiment les mettre partout, dans nos yaourts, dans nos compotes, dans nos smoothies, dans nos salades, mais aussi dans le salé. Sur une soupe, c'est très très joli, quelques graines de pépins de courge par exemple, sur des légumes rôtis au four tout simplement, on rajoute des petites noisettes concassées, ça apporte vraiment, pour moi c'est génial, parce que sans ajouter des sauces trop grasses ou des assaisonnements trop compliqués, ça apporte vraiment de la saveur, de la couleur et du croquant en plus.
Et du croquant.
Voilà. Et on le salue, notre ami Cyril Lignac, on se retrouve tout de suite pour la suite de Nous voilà bien.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
Nous voilà bien, c'est jusqu'à 10h. Et là, on est dans la partie gourmande de cette émission avec Angèle Ferremac, qui est chef et naturopathe et créatrice de la guinguette d'Angèle. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sa page Instagram. Nous sommes très très nombreux à y être abonnés, Angèle. Et alors là, je n'ai pas résisté pendant la coupure. J'ai ouvert cette jolie petite boîte que vous nous avez apportée. Pierre Nesman, est-ce que vous sentez ce que je sens?
Oui, alors. Au-delà de mon masque, effectivement.
Voilà, ah, ça y est, il se sert carrément, lui.
Oui,
c'est une boîte pour ceux qui nous écoutent.
Extraordinaire.
D'Energy Balls que vous avez préparé, Angèle Ferremac, parce qu'avec vous, nous parlons de ces petits encas qui nous donnent de l'énergie. Pierre, il ne s'est même pas gêné, il a pris direct.
J'ai pioché.
Alors, Energy Balls au thé matcha?
Voilà, exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle les boules d'énergie, parce que, évidemment, c'est
grosses,
quand même calorique.
Là, hein.
Moi, j'aime bien quand c'est généreux.
Ouais.
et donc, évidemment, c'est calorique, ça contient beaucoup d'énergie. Mais, c'est que des choses qui nous font du bien. Elles contiennent vraiment, enfin, c'est assez facile à faire. Alors, en revanche, je vous recommande d'avoir un bon mixeur pour les faire, parce qu'il va falloir tout mixer. Donc là, par exemple, j'ai mis la base, vraiment, c'est des dattes medjool. Si on a d'autres dattes, on les fera tremper, comme ça, elles seront plus faciles à mixer. On les conservera par contre un peu moins longtemps, parce que comme elles auront de l'eau, ça se conservera moins bien. Et donc, on mixe dans le mixeur 100 g de dattes medjool, un mix de 60 g de graines. Mm-hmm. Donc moi, là, j'ai mis des noix de Grenoble, des noisettes, on peut mettre des cacahuètes, des amandes, des noix de cajou, enfin ce qu'on veut. Et ensuite, on rajoute vraiment ce dont on a envie. Donc là, j'ai mis un peu de cacao cru. On peut mettre un peu de fleur de sel, de la coco, du thé matcha, du sésame, du pollen frais.
Le thé, il est un peu amer, en fait, hein, Pierre?
Oui, et je me demandais, on peut pas mettre du citron, enfin des agrumes,
Mais
je trouve que ça fonctionne. Il y a presque un petit goût.
Même ça marche bien. Je suis d'accord, on dirait presque du citron.
La date qui a ce léger goût un peu acidulé, parce que c'est de la date fraîche. Tout est cru, donc on va profiter vraiment de toutes les vertus des vitamines, des minéraux et tout ça.
Donc pour ceux qui nous écoutent, parce que nous on se régale, on est en train de bavarder et puis de faire nos petites réflexions sur ces Energy Balls qui sont vraiment délicieuses. Il y a l'amertume du thé matcha et puis quand on croque, il y a ensuite la douceur de la datte. Donc pour ceux qui nous écoutent, je mets tout ça dans un mixeur.
On mixe bien, évidemment, des noyottes les dattes avant. Et ensuite, on a une sorte de pâte, de base de pâte. Là, on forme des boules au creux de sa main. Et ensuite, on peut rouler les boules. Alors là, on peut vraiment s'amuser à faire tout un tas de couleurs différentes dans de la coco râpée, des zestes de citron ou d'orange séchée, du thé matcha, des fleurs séchées. Enfin, vraiment,
c'est tout bête, quoi.
Et ça fait des couleurs, ça peut être vraiment sympa.
Est-ce qu'il faut faire attention pour consommer tout ça? Parce que vous êtes venu aussi avec pas mal de produits de la guinguette d'Angèle. Hein. Je vais vous laisser les décrire. C'est quoi ça?
Ça, c'est un granola, par exemple.
Bah ouais, tu m'étonnes.
Alors ça, on le vend à la guinguette, mais c'est très facile à faire à la maison aussi. Flavie, est-ce que je peux donner la recette?
Mais je vous en prie.
Alors, très simple, encore une fois. On préchauffe le four à 180 degrés. Dans un grand saladier, on va mélanger toutes les graines qu'on veut. Encore une fois, les noix, les graines de lin, les graines de lin, les noix de cajou. Enfin, vraiment tout ce qu'on veut. Et on va les mélanger avec... Donc là, par exemple, il y a du riz soufflé. Ça peut être des flocons d'avoine, des flocons de sarrasin. Un petit peu tout ce qu'on veut. On peut mettre des abricots séchés ou des cranberries ou des agrumes. Moi, j'aime bien les faire avec du jus d'orange. Ça va éviter de sucrer. Pour Noël, par exemple, je mets jus d'orange cannelle. Sinon, on peut mettre un peu de miel ou du sirop d'érable, de l'huile d'olive, de la fleur de sel. On mélange tout ça, on le met au four et on laisse croustiller. En fait, c'est vraiment à l'odeur qu'on va comprendre que c'est cuit. Donc, au bout d'un quart d'heure à peu près, je conseille quand même de mélanger assez régulièrement, toutes les 5 minutes. Et ensuite, ça peut se garder dans un bocal fermé.
C'est tout à faire, un granola,
c'est
alors.
C'est tout simple à faire. Et on peut en faire des salés aussi pour les salades, les soupes et tout.
Très bien. Et ça, c'est quoi?
Alors ça, c'est des noix de cajou. Pour les noix de cajou, on fait attention à la provenance, que ce soit un approvisionnement éthique. Donc ça, ce sont des noix de cajou avec du sirop d'érable, du curcuma et de la coco, mélangés, mis au four. Je vous assure que ça, c'est un snack irrésistible.
Alors justement, est-ce que tout ça, c'est calorique? J'ai l'impression que je sais où ça va aller direct, vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr, mais c'est vrai qu'en naturopathie, on n'aime pas trop parler des calories, parce que par exemple, une boisson light... zéro calorie va vraiment pas nous faire du bien, alors qu'un avocat en saison va nous apporter plein de choses, alors que c'est très calorique. Tout est une question, évidemment, de quantité et d'hygiène de vie globale. Si on mange des fruits, des légumes, des repas sains, on peut se permettre de prendre par jour une petite poignée de tous ces super graines et de tous ces super produits
Pour le goûter, donc à 16h, quand on sort de l'école.
Exactement, mieux pour le petit-déj.
D'accord, et pourquoi mieux que pour le petit-déj?
Parce qu'en fait, le matin, on a déjà plein d'énergie, et c'est un peu une erreur peur de manger sucré pour le petit déjeuner. Alors qu'en France, on a vraiment l'habitude de manger des petits déjeuners bien sucrés. Et en fait, on n'en a pas besoin. Ça va nous faire un pic de glycémie qui n'est pas utile. On a déjà de l'insuline dans le corps le matin. Alors qu'à 16h, c'est le bon moment et ça va nous aider même à mieux dormir. Donc si on doit manger sucré un moment dans la journée, c'est pour le goûter.
Les fruits secs, on n'en a pas parlé. On a parlé des graines, on a parlé de ce que l'on peut cuisiner. Qu'est-ce qu'on a en fruits qui sont sympas?
Tous, en fait. Moi, j'aime beaucoup les abricots séchés, les cranberries. Ils se conservent. Donc déjà, ça nous permet de manger des fruits sans les manger hors saison toute l'année. Mais aussi, on peut vraiment jouer avec ces textures-là. On peut, par exemple, les réhydrater à l'eau et en faire des sauces qui iront très très bien, même avec des viandes ou dans des légumes.
C'est-à-dire que les fruits secs que je peux acheter dans mon magasin bio, qui sont dans leur sachet, je peux les réhydrater.
Moi, j'aime beaucoup faire ça.
Ça m'a jamais traversé l'esprit.
Ben, moi, j'aime bien faire ça. Par exemple, pour les abricots séchés, j'aime bien le réhydrater ou avec un petit bouillon ou avec de la sauce soja et de l'eau chauffée. Et ensuite, je mixe et j'ai une crème qui fera une super base si je veux faire une assiette un petit peu gastro. Donc vous savez, cette espèce de virgule sur l'assiette.
Et alors, juste des fruits secs comme ça, si j'ai un coup de pompe, je peux prendre quoi?
Alors, des dattes, des figues, des bananes séchées, des mangues séchées, un peu ce que vous voulez en fait.
Et ça, il faut que j'y aille mollo aussi ou pas?
Alors, c'est
parce que c'est, je ne sais pas vous Pierre, mais moi quand je commence à mettre la main dans des ananas séchés, ça me rend dingue.
Il faut essayer de se dire qu'on ne consomme pas plus grand que la taille de la paume de notre main.
On regarde tout, voilà. C'est pas énorme.
N'essayez
pas
de l'agrandir.
Moi, je vais avoir les mains de Pierre Nesman quand je serai grande.
Idéalement, c'est ça.
Très bien. Bon, c'est noté. Vous me prêterez votre main, Pierre. Une idée de recette pour la route?
Je peux vous proposer une recette hyper simple qui revient moins cher que d'acheter dans le commerce et qui est très très facile parce qu'en fait toutes ces graines, ces oléagineux, etc., on peut changer leur consistance. Donc si on les met dans le mixeur, on aura d'abord de la farine qu'on pourra utiliser dans toute la pâtisserie et tout ça. Et si on continue à mixer et qu'on a un bon mixeur, tout d'un coup ça va se transformer en purée, ça va tout d'un coup devenir un peu presque liquide, et ça c'est extraordinaire parce que ça peut remplacer le beurre sur les tartines, ça se conserve super longtemps et tout ça. On peut évidemment faire des pâtes à tartiner, plein de choses comme ça, et même on peut s'amuser avec l'univers de la crèmerie. Alors évidemment c'est pas du tout la même chose, mais si on rajoute de l'eau, par exemple 3 cuillères à soupe de beurre de cacahuète, si on rajoute de l'eau et qu'on mixe, on aura une boisson végétale, un lait végétal. On pourra remplacer le lait de vache occasionnellement par ça. On peut faire des yaourts, on peut faire des fromages, on peut voir plein de choses apparaître. Mais moi, il y a un truc que j'adore, c'est ces graines-là. Quand je les mixe et que j'en fais de la purée, ajouter ensuite l'eau, un peu de vanille, un peu de datte ou d'abricot, un peu de fleur de sel, et là c'est une boisson délicieuse. Et si on rajoute un peu de chocolat fondu par exemple si on est très gourmand, on a un chocolat chaud d'une qualité extraordinaire qui nous aura revenu beaucoup moins cher que si on l'avait acheté dans le commerce.
Merci beaucoup Angèle Ferromac pour tous ces conseils et
merci
toutes ces
vous.
Recettes. Je rappelle votre page Instagram, la guinguette d'Angèle. Qu'est-ce qu'il y a?
Merci.
Ça me fait plaisir, je suis contente. Et puis moi je vous conseille aussi le dernier livre de notre ami Pierre Nesman, Mon jardin s'adapte au changement climatique chez Delachaux et Niestlé. Merci cher Pierre.
Merci Flavie.
C'était super de vous recevoir tous les deux dans ce studio en ce samedi. Nous voilà bien, se termine. Et c'était gourmand en plus. Arrêtez de manger mes Energy Balls, vous. Je vous invite à réécouter l'émission d'aujourd'hui sur l'application RTL ainsi que sur tous les sites partenaires. Et je vous remercie pour votre fidélité. Moi, je vous retrouve lundi à 20h sur RTL avec Jour J. C'est le magazine qui vous fait revivre les événements marquants de l'actualité et de notre histoire collective. Et puis samedi prochain, dès 9h15 pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. Juste après, c'est RTL qui vous régale. Prenez bien soin de vous. Passez un excellent week-end à l'écoute de votre radio préférée. Je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.